Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 30 mai 2019, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, le Premier ministre Kassori Fofana assure que tout le gouvernement est favorable à une nouvelle constitution.
Le rapatriement du corps de l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi, retardé hier soir en Belgique, le vol est désormais prévu ce jeudi pour une arrivée en soirée en RDC.
Ici à Washington, le procureur spécial Robert Mueller sort de son silence et explique pourquoi accuser le président Donald Trump d'entrave à la justice n'était pas une option.
En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou a échoué dans ses tentatives de former un gouvernement de coalition. De nouvelles élections sont prévues en septembre.
À Amman, Jared Kushner, le gendre et conseiller du président Trump, a discuté de son plan de paix israélo-palestinien avec le roi Abdallah II.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Guinée, le Premier ministre Kassori Fofana a déclaré hier que les membres du gouvernement sont tous favorables à l'élaboration d'une nouvelle constitution. L'opposition, elle, soupçonne le président Alpha Condé de vouloir briguer un troisième mandat. Des détails avec Bagassi Koura.
Le Premier ministre Kassori Fofana affirme avoir posé la question à chacun de ses ministres et leur réponse a été unanime. C'est oui, il nous faut une nouvelle constitution, a-t-il ajouté. Il a dit aussi avoir pris acte de la démission de son ministre de la Justice, Cheikh Sako, pour des raisons personnelles. Dans sa lettre de démission lundi, Sako dit n'avoir pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution. En sa qualité de garde des Sceaux, Alpha Condé, âgé de 81 ans, n'a jusqu'à présent pas annoncé s'il allait ou non se représenter en 2020. Ancien opposant et premier président démocratiquement élu, il a souvent contesté la pertinence de la limitation des mandats. Le 18 mai, la direction de son parti lui a demandé, avant la fin de son second mandat, de doter le pays d'une loi fondamentale votée par référendum par le peuple souverain. Mais le Front national pour la défense de la Constitution, créé en avril par les principaux partis d'opposition, des associations de la société civile et des syndicats, s'oppose à un troisième mandat.
République démocratique du Congo, le rapatriement du corps de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 en Belgique, attendra encore au moins quelques heures, de même que le coup d'envoi du grand hommage populaire que veut lui réserver à Kinshasa son fils, le nouveau président Félix Tshisekedi. L'annonce du faux départ est tombée mercredi soir, au moment même où le corps de l'ex-opposant et ex-premier ministre devait enfin quitter la Belgique pour un accueil grandiose à Kinshasa toute la journée de jeudi. Le vol est désormais prévu jeudi à 14h pour une arrivée en soirée en RDC, a indiqué à Kinshasa le porte-parole du comité d'organisation des obsèques.
En République centrafricaine, 14 partis politiques et organisations de la société civile ont exigé hier le retrait des décrets nommant certains chefs de groupes armés à des postes étatiques une semaine après des massacres dans l'Ouest. Le Front uni pour la défense de la nation a exigé du président Faustin Archange Touadéra de reporter sans délai les décrets portant nomination de 3 chefs de groupes armés comme conseillers militaires, ainsi que la traduction devant la justice de 2 d'entre eux. Notamment visé, le chef du groupe 3R, Bi Sidi Souleymane, alias Sidiki. La semaine dernière, au moins 50 personnes ont été tuées dans l'ouest du pays dans des massacres imputés aux 3R.
En Algérie, le chef d'état-major de l'armée a dénoncé hier, sans les nommer, ceux qui font perdurer la crise politique par, je cite, « la rumeur et les mensonges ». Il a appelé les journalistes à être, citation encore, « au service de l'Algérie ». Précision d'Irénée Herman Ongbo.
Ceux qui tentent à exacerber la situation et faire perdurer cette crise œuvrent sciemment à répandre continuellement les rumeurs, les informations erronées et les mensonges à travers de nombreux médias, empêchant un climat d'entente mutuelle propice, voire un dialogue calme et serein, a déclaré le général Gaïd Salah. Le peuple algérien doit avancer aujourd'hui aux côtés de son armée et faire preuve d'une loyauté totale à la nation, a-t-il poursuivi. Mardi, le général Gaïd Salah avait appelé au dialogue dialogue et à des concessions mutuelles pour résoudre la crise. L'option qu'il avait jusqu'ici privilégiée, la présidentielle du 4 juillet, reste de plus en plus incertaine. Les manifestants refusent toute élection organisée par l'appareil hérité du système Bouteflika et réclament au préalable le départ de toutes les personnalités de l'ancien régime et la mise sur pied d'institutions de transition ad hoc pour réformer le système.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le procureur spécial Robert Mueller a déclaré qu'accuser le président Donald Trump d'obstruction de la justice n'était pas une option pour son bureau à cause des directives du ministère de la Justice. Monsieur Mueller, qui enquêtait sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, a parlé publiquement pour la première fois hier de son enquête de 22 mois. Jean-Roger Bion.
Monsieur Mueller a expliqué qu'en raison des directives en question, un président ne peut pas être poursuivi pour une infraction fédérale tant qu'il est en fonction. C'est inconstitutionnel. Il a pourtant pu identifier une dizaine de cas d'entrave à la justice. En revanche, a-t-il poursuivi, la Constitution prévoit une procédure en dehors du système judiciaire pour mettre en accusation un président en exercice, ce qui a été interprété comme une allusion à l'impeachment ou procédure de destitution d'un président. Bien que ces enquêteurs n'aient pas trouvé de preuves suffisantes pour accuser M. Trump d'une plus vaste conspiration entre sa campagne et la Russie, il a répété une conclusion de son rapport, à savoir que, je cite, « Si nous avions eu la conviction que le président n'avait clairement pas commis de délit, nous l'aurions dit ». Les déclarations de M. Mueller ont immédiatement relancé les appels à entamer une procédure de destitution du président Trump, un sujet qui divise profondément les démocrates. Ce dernier a pour sa part assuré que les propos du procureur spécial ne changeaient rien à son innocence. L'affaire est close, merci, a-t-il réagi dans un tweet.
Et nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
Le Parlement israélien a voté pour sa propre dissolution hier soir, moins de 2 mois après avoir été élu. Les électeurs se rendront à nouveau aux urnes le 17 septembre, scénario inédit dans l'histoire du pays. C'est un échec pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, au pouvoir sans discontinuer depuis 1999 et plus de 13 ans au total en comptant. Ce Netanyahou a été incapable de former une coalition de gouvernement avec les partis de droite arrivés en tête des législatives du 9 avril.
En tournée pour obtenir un soutien à son plan de paix israélo-palestinien, le gendre et conseiller du président américain, Jared Kushner, a été reçu à Amman par le roi Abdallah II après une escale au Maroc. Le point avec John Lyndon.
Jared Kushner doit, après la Jordanie, se rendre en Israël. À Amman hier, le roi Abdallah II a insisté sur un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Mardi, M. Kushner a été reçu à Rabat par Mohamed VI, le roi du Maroc. Le plan dont il est porteur est entouré du plus grand secret. Le processus de paix israélo-palestinien est au point mort depuis 2014. Les leaders palestiniens sont en colère contre l'administration Trump depuis qu'elle a reconnu en 2017 Jérusalem comme capitale d'Israël. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump espère réussir là où tous ses prédécesseurs, républicains et démocrates, ont échoué. La Maison-Blanche a prévu de présenter les 25 et 26 juin, lors d'une réunion à Bahreïn, le volet économique de son plan de paix.
Les États-Unis et la Russie discutent d'une façon d'avancer sur la Syrie qui permettrait à Damas de sortir de son isolement à certaines conditions, parmi elles l'acceptation d'un cessez-le-feu à Idlib, a indiqué hier l'émissaire américain pour la Syrie. Après une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU, Jim Jeffrey a confié aux journalistes que Moscou et Washington exploraient une approche par étapes pour mettre fin au conflit syrien qui dure depuis 2011, mais que cela nécessiterait des décisions difficiles.
A signalé enfin qu'au Soudan, des centaines d'employés des transports, des banques, d'entreprises et de ministères soudanais ont manifesté hier pour la deuxième et dernière journée de grève. Ils répondaient à l'appel des meneurs de la contestation pour faire pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils après avoir écarté le président Omar el-Béchir le 11 avril. Les négociations sur la composition d'un futur conseil souverain qui doit gérer une période de transition de 3 ans ont achoppé sur la répartition répartition des sièges entre militaires et civils et sont à l'arrêt depuis plus d'une semaine. Chaque camp réclame la direction du Conseil. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La nouvelle société cotonnière du Togo va ajouter un complément de 35 francs CFA sur chaque kilo de coton graine vendu par le coton culteur au cours de la campagne 2018-2019, rapporte l'agence Ecofine. Une fois versé, ce complément portera le prix du kilo d'or blanc de 250 francs CFA à 285 francs CFA. Selon la société d'État qui gère la filière, ce prix final est le meilleur pratiqué dans l'ensemble de la sous-région. Vedanta se dit prêt à investir en Zambie pour augmenter la production de cuivre de ce pays à 400 000 tonnes, créant ainsi 13 000 emplois supplémentaires à Konkola Copper Mines. C'est pourquoi Vedanta s'oppose à la décision prise ce mois-ci par le gouvernement zambien de nommer un liquidateur provisoire pour gérer l'activité KCM de Vedanta Resources, accusé d'avoir enfreint son permis d'exploitation. La procédure judiciaire a été ajournée au 4 juin. Pour finir, en Côte d'Ivoire, le Conseil du coton et de l'anacarde a annoncé hier une suspension temporaire des agréments d'exportation de noix de cajou. Cette mesure durera le temps de contrôler les accords de vente noués dans la filière. Le Conseil estime que des contrats signés largement en dessous de 1200 dollars la tonne ne peuvent pas respecter le prix bord-champ de 375 francs le kilo. Selon le Conseil, les prix d'achat des noix ont connu une tendance baissière sur le dernier semestre 2018, passant à 1500 dollars la tonne contre 2200 dollars la tonne au début de l'année.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Côte d'Ivoire a dévoilé une préliste pour la CAN 2019.
Oui, on note le retour de Wilfried Bonny, 30 ans, désormais exilé à Al Arabi SC au Qatar. Une absence remarquable, c'est celle de Gervinho. Le retour de l'ancien attaquant de Lille et d'Arsenal qui n'a plus joué en sélection depuis novembre 2017 était annoncé avec insistance compte tenu de sa bonne saison écoulée avec Parme. Gervinho, 32 ans, avait aussi manifesté son désir de rejouer avec les éléphants, avec qui il a remporté la CAN en 2015. Le sélectionneur Ibrahim Camara a soutenu qu'il a des joueurs de grande qualité dans les couloirs, en citant notamment Nicolas Pepe, Maxwell Cornet ou encore Max-Alain Gradel. La liste définitive des 23 pour la CAN sera publiée le 9 juin. Les éléphants entameront leur préparation en France où ils joueront un premier match amical contre les Comores le 7 juin à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France.
Chelsea a remporté sa deuxième Ligue Europa.
Oui, Chelsea a torpillé Arsenal 4 buts à 1 à Bakou pour s'offrir sa deuxième Ligue Europa grâce à un doublé de son maestro belge Eden Hazard qui pourrait quitter les Blues cet été au Mercato. L'autre grand artisan du succès des Blues est Olivier Giroud qui termine meilleur buteur de la compétition avec 11 buts cette saison et Chelsea fait un heureux en France. Lyon n'aura pas à passer par les tours préliminaires et est directement qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions la saison prochaine, les Blues étant déjà qualifiés via le championnat d'Angleterre.
Caster Semenya fait appel de la décision du TAS devant la justice suisse.
Oui, la championne sud-africaine a fait appel devant la justice suisse du jugement controversé du tribunal arbitral du sport en faveur d'un règlement de l'I2AF qui lui impose, ainsi qu'à plusieurs athlètes hyperandrogènes, de prendre des médicaments pour faire baisser son taux de testostérone. Je suis une femme et une athlète de classe mondiale. L'I2AF ne me droguera pas ou ne m'empêchera pas d'être ce que je suis, a écrit Caster Semenya dans son appel déposé devant la Cour suprême fédérale suisse de Lausanne. Elle demande à la justice suisse d'annuler la totalité de la décision du TAS qui avait rejeté son recours le 1er mai dernier contre le nouveau règlement de l'I2AF.
NBA, Pascal Siakam envoie un message d'espoir à l'Afrique.
Oui, l'ailier camerounais de Toronto a espéré hier que sa participation à la finale NBA contre le double champion en titre Golden State va envoyer un message d'espoir en direction de son pays et de l'Afrique. Cela me fait vraiment plaisir pour un enfant du Cameroun et d'Afrique d'être à ce niveau. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je suis vraiment fier de représenter le Cameroun et l'Afrique, a expliqué Siakam avant le premier match de la finale NBA qui débute ce soir. À 25 ans, il est l'une des révélations de la saison 2018-2019 et pourrait recevoir fin juin le trophée de joueur ayant le plus progressé. Il a quitté le Cameroun pour les États-Unis en 2013 pour rejoindre d'abord un lycée dans le Texas, puis l'Université du Nouveau-Mexique entre 2014 et 2016. Drafté en 2016 par Toronto, il a explosé cette saison avec des statistiques de 16,6 points et 6,9 rebonds par match en saison régulière.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, réélu le 23 février dernier pour un second mandat, a prêté serment hier à Abuja. La cérémonie n'a pas drainé des foules en raison de la célébration de la journée de la démocratie observée le 29 mai. Reportage de Gilbert Tamba.
I, Muhammadu Buhari.
Je jure de préserver, de protéger et de défendre la Constitution de la République fédérale du Nigeria. C'est en ces termes que le président Muhammadu Buhari a prêté serment pour son deuxième mandat à la tête du Nigeria. Une prestation marquée par 21 coups de canon. Il n'y a pas eu une cérémonie en grande pompe pour ce 29 mai 2019 comme d'habitude. Les festivités ont été renvoyées au 12 juin, désormais célébrées chaque année comme journée de la démocratie. C'est le président lui-même qui a effectué ces changements pour marquer la tenue de l'élection de 1993 qui avait vu la victoire de Mouchoud Abiola, mais annulée par la suite par des autorités militaires de l'époque. Pas de discours non plus et pas d'invité de marque. Muhammadu Buhari a prêté serment pour éviter une crise constitutionnelle, ce 29 mai étant le dernier jour de son premier mandat. Dans les rues de la capitale Abuja, les attentes des Nigériens sont multiples. C'est le cas de Anien Kang Iyo Idem.
Nous attendons de voir la réalisation de toutes ses promesses, même s'il les a déjà commencées. Pour son premier mandat, nous lui avons brandi un carton jaune en guise d'avertissement. Ce carton reste maintenu. Donc, il doit faire de son mieux pour réaliser les promesses faites.
Âgé de 76 ans, le président Muhammadu Buhari a battu son principal rival, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, avec une marge de près de 4 millions de voix le 23 février dernier. Le PDP, le Parti démocratique populaire de l'ancien vice-président Atiku Abubakar, a rejeté les résultats. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, Pierre Ngolo, le secrétaire général du Parti congolais du travail, formation au pouvoir, a estimé au cours d'une conférence de presse tenue mercredi à Brazzaville que le Congo avait le droit de signer des accords avec n'importe quel partenaire dans le monde. Il réagissait aux commentaires qui ont fusé de partout à la suite de la visite du président Denis Sassou Nguesso en Russie, avec à la clé des accords militaires et économiques. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin fait le point.
Pour le secrétaire général du PCT, le parti du président Sassou Nguesso, le Congo est libre de signer les accords avec n'importe quel partenaire. Il suffit que les intérêts de chaque parti soient garantis. Pierre Ngolo estime que les critiques sur les accords économiques et militaires passés avec la Russie est un faux débat.
Le Congo est une république, c'est quand même un pays souverain. Il devrait reconnaître quand même le droit du Congo de diversifier les partenaires. La plupart des nôtres ont été formés en URSS. Combien aux États-Unis d'Amérique? Mais combien? Donc, tournons le dos à la Chine, tournons le dos à tous les partenaires. On n'a pas de gêne à acclamer la force de nos rapports avec la Russie. En même temps, nous travaillons avec la Russie. En même temps, nous travaillons avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons le droit d'aller en Russie, comme les Russes ont le droit de venir ici. Et c'est pas cela qui devrait gêner la signature d'un accord. Le FMI et le Congo est un pays membre du FMI, avec ses droits.
Les analystes voient autrement la chose, estimant qu'il faille aller prudemment au moment où le Congo est en instance d'accord avec le Fonds monétaire international. Alphonse Ndongo, analyste économique.
Cela peut un peu compliquer peut-être les choses à la dernière minute. On sait très bien que le Fonds monétaire international, y compris même la Banque mondiale, qui sont les deux institutions de Bretton Woods, sont contrôlées à quasiment 100% par les Européens et surtout la toute puissante américaine. Est-ce que cela ne va pas créer des problèmes? On ne peut pas engager, n'est-ce pas, des offensives diplomatiques aujourd'hui sans tenir compte de ces paramètres.
Pour le politologue Constant Ebarapeya, Denis Sassou Nguesso, en signant ses accords avec la Russie, a quasiment agi par défi.
Lorsqu'on rentre dans l'analyse stratégique ou bien dans la théorie des jeux, on peut comprendre facilement que le président Sassou Nguesso peut engager cette démarche tout en étant risqué. Mais on s'inscrit beaucoup plus dans le cadre du chantage. Bon, vous ne voulez pas faire ceci, et moi, je vais m'engager de l'autre côté. En réalité, la guerre froide n'est pas terminée. L'introduction de la Russie en Centrafrique, ça a entraîné ce qu'elle a entraîné. Aujourd'hui, la Russie qui retrouve l'Afrique centrale, avec le Congo qui était d'ailleurs son ancien fief, il faut le reconnaître. Donc ça peut engager des grands débats ou bien de positionnement ou repositionnement stratégique au niveau de la géopolitique globale.
Les accords signés avec la Russie permettront essentiellement de réparer les engins et les avions militaires et construire un pipeline entre Pointe-Noire et Brazzaville. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Plus de 2 millions de personnes, dont près d'un million d'enfants, sont menacés de famine en Somalie du fait d'une grave sécheresse. L'ONU a lancé un appel à l'aide de Mogadiscio, reportage de Mohamed Cher Nord, repris ici par Lionel Gahima.
Manquant d'eau et de vivres, des dizaines de milliers de Somaliens ont fui leur village ces trois dernières semaines pour se réfugier près de Mogadiscio, la capitale. Jawaro Mohamed est épuisée. Elle est déjà mère de quatre enfants et attend le cinquième.
Après la mort du cheptel, la vie était devenue intenable au village et la famille a dû marcher 15 jours d'affilée pour parvenir au camp.
La sécheresse et la perte de moyens de production exposent des centaines de milliers de Somaliens à la famine. Le petit Amina, âgé d'un an, souffre de malnutrition, d'après sa mère, Nima Al-Hassan.
Cela fait 6 mois que l'enfant souffre et cela est dû en grande partie aux difficultés, notamment la sécheresse et le manque de nourriture adéquate.
Une aide d'urgence est nécessaire pour éviter une crise humanitaire, a fait savoir Justin Brady, chef du bureau de coordination humanitaire de l'ONU en Somalie.
Le niveau d'adaptation et de résilience de ces communautés s'est détérioré au cours des dernières saisons. Le gouvernement a accentué la mise en place d'un cadre de rétablissement, mais ces solutions ne seront pas mises en œuvre du jour au lendemain.
Beaucoup doit être fait au niveau local pour prévenir le déplacement massif des personnes, estime pour sa part Mokhtar Hussein, un responsable du ministère somalien des Affaires humanitaires.
Le ministère propose de l'aide et encourage les gens qui peuvent encore tenir pour éviter qu'ils ne quittent leur village.
Une prompte réponse humanitaire avait permis de mitiger l'impact de la sécheresse de 2017 qui avait déplacé près d'un million de Somaliens. L'espoir est que les donateurs seront aussi généreux cette fois-ci.
En direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Retour sur la première sortie publique ici à Washington du procureur spécial Robert Mueller qui enquêtait sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. En annonçant sa démission, il est revenu lui-même sur ses conclusions et Idriss Fall a recueilli la réaction du républicain Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
D'abord, il a dit que les Russes ou Poutine ont bel et bien fait un grand travail pour faire l'ingérence dans l'élection de 2016. Et ils ont voulu faire ça en faveur de M. Trump et contre Mme Hillary Clinton. Ils ont voulu que Trump gagne. Et ils ont dépensé beaucoup d'argent pour essayer de changer notre élection.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de collusion?
Non, il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de collusion. Il y avait de collusion. C'est-à-dire qu'il y a des gens de Trump qui ont travaillé avec certains agents russes. Mais il a dit, sous la loi, il n'y avait pas assez de preuves qu'ils ont fait quelque chose de criminel.
Qu'en est-il de l'obstruction à la justice?
Il a dit que, sous la loi américaine, un procureur n'a pas le droit d'inculper un président des États-Unis quand il est en exercice, quand il est à la Maison-Blanche. Ça, c'est la Constitution. Et il a dit, si nous avons eu une preuve que le président n'a pas fait une chose criminelle pour empêcher cette enquête, nous aurions dit. Donc, il n'a pas dit que le président est exonéré d'avoir fait quelque chose de criminel. C'est au Congrès des États-Unis de décider s'il a fait une chose criminelle.
Il n'a pas contredit le résumé que le ministre de la Justice, William Barr, avait annoncé publiquement.
En disant que le président n'a rien fait criminel, c'est-à-dire, je ne peux pas le dire, il a contredit le ministre de la Justice qui a dit que c'est tout à fait clair que le président n'a rien fait de mal.
Donc, il n'y aura aucune suite dans cette affaire-là?
Les commissions du Congrès ont annoncé qu'ils voudraient appeler M. Mueller de venir chez eux pour faire des témoignages, mais il a dit « je ne peux rien faire d'autre, ce qui est dans le rapport, ce que je viens de dire ». C'est au Congrès maintenant de prendre des décisions. Chez les démocrates, dans la Chambre des représentants, il y a de plus en plus de membres de cette Chambre qui appellent pour commencer une procédure d'empêchement du président. Si la Chambre des représentants, qui est contrôlée par le démocrate, décide que président Trump doit être chassé de son travail, le Sénat, qui est républicain, ne va pas être d'accord.
Le républicain Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. San Francisco, en Californie, est la première ville américaine à interdire l'utilisation de la reconnaissance faciale par la police et d'autres agences administratives. La ville n'est pas la seule concernée. De plus en plus de personnes se méfient de la puissance technologique, pendant que d'autres y adhèrent volontiers. Reportage de Dina Mitchell, repris ici par Lou Niaï.
San Francisco est surnommée la capitale mondiale de la haute technologie. La ville a récemment interdit à la police et d'autres agences l'utilisation de la reconnaissance faciale. Les partisans de cette réforme disent que c'est une menace aux libertés civiles. Nathan Sherd de la Fondation Frontières électroniques.
Le fait que les forces de l'ordre et les agences gouvernementales seront en mesure de traquer les résidents qui se déplacent en ville, l'effet potentiel de leur enlever les droits garantis par le premier amendement de notre Constitution, c'est assez inquiétant.
Aaron Peskin est le membre du conseil municipal de San Francisco.
C'est une technologie qui a déjà mal identifié 28 membres du Congrès américain. Elle peut donc être mal utilisée par les gouvernements.
John Bolamwini, fondateur de la Ligue de justice algorithmique, abonde dans le même sens.
Au minimum, le Congrès devrait passer un moratoire sur l'utilisation de la reconnaissance faciale par la police à cause des risques d'abus. Le manque de supervision est une technique à risque, particulièrement pour les communautés marginalisées.
Mais d'autres estiment que cette technologie, tout comme la biométrie pour les empreintes digitales, peuvent être bénéfique pour l'humanité. Pour Bruce Hanson, créateur de Credence ID, la mesure prise par San Francisco est trop sévère.
Une interdiction me semble être la mauvaise décision. Certainement, il y a besoin de revoir l'utilisation. Nous pouvons débattre sur sa place dans notre société, mais se débarrasser de la biométrie, c'est comme se débarrasser d'Internet. Parce que cela sert à faire du mal.
Les législateurs de Washington sont en train d'évaluer l'impact sur les droits civiques. Les critiques disent qu'elle a des lacunes et ne marche pas souvent sur les femmes et les personnes de couleur. Mais la reconnaissance faciale semble avoir beaucoup d'avenir. La Chine l'a adoptée pour sa sécurité intérieure et même l'utilise dans les toilettes publiques pour distribuer le papier toilette. Apple l'utilise pour débloquer son dernier iPhone. Les actionnaires d'Amazon ont voté deux fois pour limiter l'utilisation de ce logiciel, mais ont échoué deux fois.
Salut les amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RMCO donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RMCO. Ne ratez pas votre émission interactive RMCO chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le monde aujourd'hui, au VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assadoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.